Ruth Dreyfus, tout d'abord, votre regard sur les politiques en matière de drogue en vigueur actuellement, on peut parler d'échec selon vous?
Sur le plan global, sur le plan mondial, on peut parler d'échec parce que l'objectif était bien sûr de réduire la consommation et la production et d'annihiler le pouvoir du crime organisé. Qu'est-ce qu'on remarque là, partout dans le monde, la consommation a augmenté, la production a augmenté. Et le pouvoir des organisations criminelles s'est accru au point de menacer des États. On parle déjà de certains États comme de narco-states, c'est-à-dire dirigés par la mafia.
Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système actuel, selon vous?
Alors, il y a plusieurs éléments qui ne fonctionnent pas. La première chose, c'est que, en mettant l'accent sur la prohibition et sur la répression, on a négligé les aspects de santé publique. Nous, en Suisse, on a été obligés douloureusement de les remettre vraiment au cœur de nos politiques lorsqu'on a vu des gens mourir d'overdose, lorsqu'on a vu les scènes ouvertes et la misère physiologique et sociale, et lorsqu'on a surtout vu la dissémination du virus du sida et qu'on constate maintenant les ravages faits au niveau de l'hépatite C. Donc, première chose, on a négligé l'aspect santé publique en se disant qu'en réprimant les consommateurs, les dealers, etc., on arriverait à les supprimer, alors que ce qu'on a fait, c'est priver les gens d'accès à des soins, d'accès à des soutiens, d'accès à des moyens aussi pour une consommation qui soit plus raisonnable et moins destructrice et moins dangereuse. La deuxième chose où, effectivement, il faudra de plus en plus changer le cours des choses, c'est qu'en criminalisant justement la consommation, on a créé des foyers, au fond, de danger pour l'ensemble de la société. On a créé des groupes marginalisés et sans effet, d'ailleurs, sur la poursuite de ceux qui sont vraiment responsables, c'est-à-dire des boss, si vous voulez, des organisations criminelles. Et donc, c'est un double échec, à la fois sur le plan de la sécurité et sur le plan de la santé, et il faut qu'on cherche d'autres solutions.
Il est question donc d'un tournant global dans la politique des drogues, et qu'est-ce qui pourrait réellement changer?
Alors, je dirais qu'il y a deux choses qui sont en train de se passer. D'abord, le débat a été rouvert. Pendant longtemps, il y avait une espèce de consensus, je dirais, mou, en disant, OK, si certains grands pays, parce que tout ça a quand même été fortement influencé au départ par les États-Unis d'Amérique et très soutenu aussi par la Russie, la Chine, etc., des grandes puissances. Si celles-ci veulent vraiment se battre contre la drogue, nous, on essaye de trouver des solutions plus adaptées aux besoins de nos populations. Donc, laissez-nous faire et on vous laisse faire. Donc, une espèce de consensus mou qui, lui, a volé, je crois, vraiment en éclat. On voit maintenant qu'il y a des positions extrêmement différentes entre des pays, je dirais, comme la Russie, qui restent dans le tout répressif, qui ne permettent pas de mettre à disposition du matériel stérile pour des gens qui consomment des drogues, qui ne permettent pas des traitements de substitution. Peut-être juste entre parenthèses, lorsque la Russie a annexé la Crimée, la première décision prise a été de supprimer les échanges de seringues et les traitements à la méthadone. Résultat, en une année, 10% des consommateurs de drogue sont morts en Crimée. Donc on a des pays qui restent extrêmement répressifs, on a des pays qui continuent à pratiquer la peine de mort, des traitements par contrainte et qui sont souvent vraiment des atteintes à la dignité des gens et des punitions extrêmement, extrêmement dures, ce qui a justifié, si on veut, l'explosion des incarcérations aux États-Unis d'Amérique. Pour prendre cet exemple-là, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique représentent 5% de la population mondiale et 25%, un quart, de la population carcérale du monde. Et l'explosion s'est faite à cause de la guerre contre la drogue. Donc, on a des pays extrêmement répressifs, certains qui commencent à se poser des questions, comme les États-Unis, et d'autres qui ne s'en posent pas encore. Et on a des pays qui, au contraire, s'efforcent de trouver des solutions, comme certains États américains avec la régulation du cannabis, comme l'Uruguay, comme la Nouvelle-Zélande, et en Europe en général, des pays qui ont mis, encore une fois, l'accent sur des questions de santé publique. Donc, il n'y a pas de consensus. Il y aura une réunion des Nations Unies en avril de l'année prochaine qui devra faire un peu le point sur la situation actuelle. Et je crois qu'il sera très important de dire, oui, on n'a plus ce consensus-là. Il faut en rebâtir un autre, mais on ne pourra le rebâtir qu'en multipliant des expériences, des projets pilotes, en échangeant des expériences et des bonnes pratiques, de façon à savoir quelles sont les choses qui marchent et quelles sont les choses qui ne marchent pas. Je dirais qu'aujourd'hui, on sait assez bien ce qui ne marche pas. Il faut qu'on commence à chercher ce qui marche. Et l'Europe a montré, en particulier dans le domaine de la santé publique, qu'elle a toute une batterie de mesures qui marchent.
Et en Suisse, quelle est votre vision de la politique anti-drogue ? Est-ce que notre pays est quand même en avance sur certains points par rapport à d'autres pays ?
Notre pays a été pionnier déjà à la fin des années 80 avec mon prédécesseur, M. Coty. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir être responsable de cette politique pendant 10 ans. Et je dirais que la Suisse s'est illustrée par, d'un côté, son pragmatisme. Finalement, on a des problèmes, essayons de les aborder d'une façon non idéologique, et puis d'une façon malgré tout scientifique, dans le sens que, par exemple, quand on a introduit la prescription médicale d'héroïne, on s'est donné 5 ans avec une équipe scientifique qui a accompagné tout cela, qui a informé sur les conséquences de ce nouvel instrument médical, et ensuite le peuple a accepté également cette nouvelle mesure. Donc ce mélange de pragmatisme et de possibilité de se laisser convaincre si on leur dit, ben voilà, on a essayé, mais on a essayé sérieusement, et voilà ce que ça donne, permet de faire avancer les choses. Donc la Suisse a été pionnière. Elle ne l'est plus aujourd'hui sur la nouvelle voie qui s'ouvre. D'abord, elle ne l'est pas en ce sens qu'elle continue à avoir, au moins dans son code pénal et dans sa loi sur les stupéfiants, surtout l'idée qu'on n'a pas le droit de consommer. Et donc, ça reste un délit. Alors, heureusement, ça n'est pas trop lourd. Les punitions qui en résultent, parfois ça, pour le cannabis, c'est une simple amende d'ordre, mais malgré tout, il y a des tas de conséquences, par exemple, sur le retrait du permis de conduire et des choses comme ça. Et donc, on reste un pays répressif dans sa philosophie, même si dans la pratique, c'est une répression, je dirais, plutôt nuancée. Surtout, on n'a pas avancé dans l'idée que le mieux, ce serait que l'État prenne le contrôle de ces substances plutôt que de les abandonner en main criminelle. Et donc, ça, c'est toute la question de la régulation des marchés, de la reprise, encore une fois, en main par l'État, comme elle le fait pour d'autres substances dangereuses, du contrôle. Et là, il y a certains États américains, il y a l'Uruguay, il y a la Nouvelle-Zélande, qui sont plutôt les pays pionniers. Pour la décriminalisation en Europe, c'est le Portugal et la République tchèque qui sont pionniers. Donc, vous voyez, à tour de rôle, il y a des pays qui avancent et d'autres qui consolident ce qu'ils ont et qui se posent la question de savoir si elles vont rejoindre aussi le mouvement.
Vous prenez une régulation de la drogue, si je vous comprends bien, mais est-ce qu'il y a une différence entre régulation et dépénalisation ?
Oui, tout à fait. Dépénalisation, je dirais, ça c'est vraiment la question de savoir si l'on a le droit de consommer ou pas. C'est surtout au niveau des consommateurs, donc de la demande, que la question se pose. Et là, il est clair que les expériences qui ont été faites, en particulier au Portugal, sont positives, en ce sens qu'au lieu d'envoyer quelqu'un devant le juge, on l'envoie pour toutes les drogues d'ailleurs, et pas seulement le cannabis, on l'invite. Ce n'est pas une obligation, on l'invite à s'entretenir avec un groupe, médecin, travailleur social, etc., puis de voir quelle est sa façon de consommer. Je veux dire, est-ce que c'est une consommation bien maîtrisée, parce que c'est aussi possible, qui ne perturbe pas sa vie, comme une consommation, par exemple, régulière, mais tout à fait limitée quant à la puissance de ce qu'on prend et quelque chose comme un verre de vin qu'on prend aussi le soir pour mieux dormir. Est-ce que c'est une consommation, encore une fois, raisonnable, qui n'a pas d'effet sur l'environnement, ou est-ce que c'est une consommation qui pose des problèmes à la personne? Et alors on lui offre un certain nombre de possibilités. Est-ce que c'est une réponse aussi à une situation de marginalisation sociale? Et c'est alors là qu'il faut agir, logement, travail, etc. Donc voilà, ça c'est la dépénalisation, si vous voulez. Plus de peine, en principe, ça n'est plus un crime, ça n'est plus un délit. Et on cherche une autre réponse à des gens qui ont des problèmes. Maintenant, la régulation, ça veut dire que en principe, de la production jusqu'à la vente de détail, si vous me permettez cette expression, c'est une marchandise, ce sont des marchandises, parce qu'elles sont différentes quant à leur dangerosité, ce sont des marchandises qui ont un potentiel de risque, de danger, d'atteinte à la santé, comme les médicaments, comme les somnifères par exemple, comme les excitants ou les ça pose un problème si vous voulez, comme l'alcool, comme le tabac, comme les substances radioactives, comme certaines substances chimiques qui peuvent être vendues ou pas vendues par tel ou tel vendeur ou pas, à tel âge, utilisées de telle façon, etc. C'est ça le contrôle, c'est ça la régulation. Et on a une belle tradition, lorsque quelque chose est dangereux, d'éviter que ce soit dans le marché libre. Mais il faut aussi d'éviter, libre dans le sens, on peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mais en même temps, le n'importe où, le n'importe quand et le n'importe comment, aujourd'hui, il est réel et il est attisé par un système, je dirais, commercial, criminel. C'est ça qu'il faut stopper par la régulation.
Si on régule la consommation de drogue, comment protéger la population et la jeunesse de la tentation d'aller vers certaines substances ?
Vous ne pensez pas que la tentation elle est grande aujourd'hui, où on trouve dans le quartier où j'habite, à tous les coins de rue, quelqu'un qui a une marchandise à vendre et intérêt à la vendre et aucun intérêt pour la santé, l'âge du jeune, etc. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans les pays où il y a eu dépénalisation, il n'y a pas de relation entre le niveau de consommation et l'accès facilité dans un cadre libéral, dans un cadre légitime, légal plutôt. Pour prendre un exemple, les Pays-Bas n'ont pas un taux de consommation plus élevé que la France, qui est un des pays les plus répressifs d'Europe occidentale, avec la Suède et les Pays-Bas qui ont le système des coffee shops où on peut aller consommer. Mais effectivement, la question des jeunes est la question qui est la plus importante parce que c'est à ce moment-là que peut se cristalliser une conduite addictive. J'entends, elle peut aussi venir plus tard, mais le risque est plus grand. Plus on consomme jeune, et là, bien sûr, prévention, traitement visant à l'abstinence, prise en charge sociale et pédagogique, tout ça doit naturellement absolument accompagner une régulation du marché. Et cela existe déjà aujourd'hui et ça doit être encore intensifié.
Si on parle de régulation, de dépénalisation, on ne parle pas forcément de libéralisation, quelle place devrait avoir la répression selon vous ?
Mais comme je dirais la répression comme elle est pour le tabac et pour l'alcool, pour prendre un exemple, mais il y a toutes sortes de choses différentes, ou comme on la voit pour les médecins qui prescriraient sans raison des médicaments qui par ailleurs peuvent aboutir sur le marché noir. Ces personnes risquent de perdre le droit de pratiquer la médecine, ça c'est la répression. Un kiosque de tabac qui vend à des mineurs risque l'amende, la même chose pour l'alcool. La répression, elle existerait aussi dans la mesure où si on arrive à réguler le marché, il faudra éviter qu'à côté de ce marché régulé, le marché illégal trouve ses niches, par exemple avec des produits qui seraient des produits plus puissants que ceux auxquels on pourrait avoir accès sur le marché légal. Et donc, la police n'est pas sans travail, on ne met pas les policiers au chômage, il faudra qu'ils veillent, mais ça sera une bataille moins désespérante, je dirais, que la bataille actuelle où ils ont l'impression de se battre contre une hydre. Ils coupent une tête et il y en a immédiatement une qui repousse. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le deal de rue. Ces gens sont absolument interchangeables et facilement remplacés. Et donc, oui, je crois pouvoir se concentrer aussi, alors répression sur le crime organisé, poursuivre le blanchiment d'argent, poursuivre la corruption. Ça, c'est beaucoup plus efficace que d'essayer d'attraper les petits poissons qui, encore une fois, ne sont pas responsables de l'ensemble de l'organisation.